Quoi de neuf dans l'IMO ?
radio-imo.fr.
Une émission présentée par Olivier Bureau, président de l'Institut des constructeurs et des promoteurs.
Radio IMO, l'information immobilière.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur Radio IMO et très heureux également de recevoir aujourd'hui Philippe Gerlot, président de la société de promotion immobilière MDH Promotion, promoteur reconnu en Ile-de-France. Philippe Gerlot, bonjour.
Bonjour.
Tout de suite, une première question. Pouvez-vous nous présenter votre société ? Certains la connaissent forcément hein, dans les auditeurs, mais d'autres non.
Bon, nous sommes assez discrets, mais bon, c'est une société qui existe depuis 25 ans, qui, step by step, a monté quelques marches pour aujourd'hui représenter à peu près entre 1,5 et 2% du marché francilien en logement. C'est notre spécialité, logement, accession à prix maîtrisé, parcours résidentiel. Voilà, on fait 100 millions de chiffre d'affaires.
Alors,
on a 43 collaborateurs.
Oui, ce qui est quand même une belle société. Je sais que vous êtes un acteur engagé dans votre métier. Vous parlez souvent d'un urbanisme raisonné. Qu'est-ce que cela représente pour vous, un urbanisme raisonné ?
Alors, un urbanisme raisonné, on pourrait dire que c'est un urbanisme raisonnable, hein, c'est-à-dire ne pas faire forcément le maximum de surface qu'on peut faire. Ça veut dire aussi de rentrer, bien sûr, de répondre aux exigences de durabilité des constructions, des matériaux, de l'esthétique, sachant que lorsqu'on construit un immeuble, on le construit pour au moins un siècle. Et ce qui est important, c'est la façon dont les gens habitent. Mais c'est donc un lieu de vie, mais c'est aussi ce que voient les gens quand ils passent sur le trottoir d'en face.
Est-ce que la crise sanitaire a modifié votre conception du logement, du programme que vous proposez à vos clients ?
Alors assez peu en fait, parce que ça fait 20 ans qu'on met des larges balcons sur chaque appartement à partir du deux pièces.
D'accord.
Alors on regarde même maintenant depuis la crise sanitaire pour les quelques studios, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut dire après ? On fait plutôt des surfaces assez généreuses, puisqu'on fait 80% de nos ventes à des particuliers qui vont habiter, hein, et 20% à des investisseurs, ce qui fait qu'on a toujours eu des surfaces plutôt généreuses, ce qui fait que le coin bureau existait déjà dans nos constructions.
En préparant cette interview, je regardais les programmes que vous proposiez, que vous proposez à vos clients, et j'ai remarqué qu'il y en avait pas mal qui étaient dans le cadre d'éco-quartier, voilà. Est-ce que vous avez une démarche environnementale forte chez MDH Promotion ?
Alors on a en effet pas mal de programmes dans l'éco-quartier parce que on a répondu au concours et on l'a gagné. Mm-hmm. Si on l'a gagné, c'est qu'on a
trouver.
Une réelle démarche environnementale, mm-hmm. je pense. Mm-hmm. C'est-à-dire que on met pas tout, hein. On essaye de faire ce que l'on dit et donc on s'engage. Les premiers éco-quartiers, c'était RT 2012, moins 20%. Mais aujourd'hui, l'éco-quartier qu'on a gagné sur l'éco-quartier de Coubray, où là, on est en passif, voilà, sans logement, en passif complet, avec construction à base de bois.
Et si aujourd'hui, vous pouviez mettre en avant un programme un peu phare de MDH Promotion, ça serait lequel ?
Oh, il y en a plusieurs.
Lesquels ?
Alors, lesquels on peut parler de Brie Contrebert, 24 maisons de ville, construction bois et hors site. Mm-hmm. Hein, et hors site, par un jeune constructeur Écotive. Nous avons Voisins Bretonneux. Alors là, c'est la grande opération de 500 logements qu'on a gagnée dans le cadre de notre réseau Les Promoteurs du Grand Paris.
D'accord.
Où on a 500 logements avec. C'est plutôt un lieu de vie et avec des usages où on a plus de 1100 mètres carrés de jardin potager, où on a on traite les ordures sur place pour en faire du compost, hein, avec une machine qui va être intégrée au quartier, voilà, avec de l'habitat participatif, enfin voilà, beaucoup de choses un petit peu innovantes, même si ça existe aussi ailleurs. Et puis, on a notre opération de Coubray, là où, bien sûr, on fait 100 logements en passif, mm-hmm. et avec des réelles économies de chauffage, évidemment. Et Sur Voisins-le-Bretonneux aussi, on trouve aussi un immeuble avec des radiateurs Carnot, où le chauffage est gratuit parce que c'est, en fait, ça remplace
ça récupère les
récupérations de chaleur par l'informatique, voilà, de tous les réseaux informatiques.
Ça marche, ça ? C'est bien. Hein.
J'espère que ça va marcher.
Et si on prend un petit peu de hauteur pour parler finalement secteur d'activité, on peut remarquer qu'à la fin du premier semestre en promotion immobilière en France, les chiffres en termes d'activité, logements autorisés sont plutôt moyens, voire très moyens. Est-ce que vous avez des éléments d'explication sur cela ? Il y a eu une année d'élection qui a suivi une autre. On va rentrer dans une année d'élection après avoir été dans une année d'élection. Beaucoup de projets sont peut-être bloqués. Quel est votre avis sur le sujet ?
Alors, il y a peut-être une différence quand même en fonction des régions. En Île-de-France, on est dit aussi, c'est vrai qu'il y a moins d'autorisations parce que des maires aujourd'hui sont dans une psychologie qui n'est pas évidente à gérer. Ils ont d'un côté un changement culturel du fait que les gens en ont assez, hein, qu'il y ait des grues partout. Mais s'il y a des grues partout, c'est qu'en fait, il y a eu des autorisations. Et je crois que tout ce qui est grand projet va faire qu'il va y avoir sur le marché de nombreux logements en Île-de-France. Hein, je parle de ce que je connais. Mmh. Alors peut-être moins, en effet... En province, bon, particulièrement sur des villes où en effet, une force écologique a pris le dessus. Bon, mais je ne crois pas que ça soit après à nous, les promoteurs, de nous diversifier, de faire un peu de réhabilitation, de faire autre chose, ou de proposer aux villes, aux mairies, des projets qui peuvent les contenter. Car aujourd'hui, c'est vrai... Avant, notre métier, c'était répondre au PLU, hein, à la loi républicaine, à la loi du PLU. On répond. Aujourd'hui, c'est plus ça. C'est être capable de créer des lieux de vie qui vont plaire et qui vont plaire aux communes. Et le PLU n'est plus la règle. Ça ne suffit pas. Il faut avoir soit du réseau, soit un beau projet, soit une réponse spécifique, une architecture... Qui marque, voilà, et qui fait que le projet va être accepté.
Pourquoi ? Parce que c'est une affaire aussi de concurrence avec des acteurs nationaux qui, quand on parle de réseau, c'est pour utiliser un réseau, parce que si on n'a pas de réseau, ben finalement les acteurs nationaux arrivent et raflent tout.
Non, je crois que les acteurs nationaux passent beaucoup de temps à faire du réseau aussi.
Ouais.
Et donc il faut que chacun... faut que chacun, avec ses particularités, arrive à percer. Maintenant, bon, beaucoup de maires savent aussi qu'on on ne travaille pas qu'avec un seul acteur, et on travaille avec plusieurs.
Lorsqu'on a préparé cette interview, vous me parliez d'un exemple plutôt positif qui était celui de la ville de Saint-Maur, dans sa relation avec les promoteurs, les projets immobiliers présentés et le PLU.
Alors c'est très drôle ce que vous dites, parce que vous savez que la ville de Saint-Maur est très attaquée pour son peu de logements sociaux, ce qui est assez faux, puisque nous, on construit depuis à peu près 6-7 ans sur la ville de Saint-Maur, et systématiquement, dans chaque programme, on a 30% de logements sociaux qui est demandé par le PLU, et c'est ce que nous réalisons. Non, ce que je veux dire quand on a parlé de Saint-Maur, c'est que ben, les gens peuvent se plaindre, en effet, parce qu'il y a beaucoup de grues, énormément de grues. Mais là, Saint-Maur respecte son PLU, c'est-à-dire qu'ils ont fait un PLU avec les routes principales où on peut faire du collectif, et tout le reste, on reste en maison individuelle. Et ça, bon, c'est assez sain, et c'est pour ça que les promoteurs essayent tous d'aller à Saint-Maur pour construire.
On travaille dans la clarté.
Voilà, c'est assez clair, tout à fait.
Et vous avez dit juste un petit mot sur le Grand Paris, l'association du Grand Paris. Je crois que vous en êtes président.
Oui.
Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots ?
Est-ce que c'est
assez innovant quand même ? Ça a été repris dans le sud, je le sais, par une association varoise qui fait à peu près la même chose, de promoteurs immobiliers. Peut-être pouvez-vous nous en parler ?
Bon.
C'est quoi l'objectif ?
Très vite, notre objectif, c'est une alternative pour les grands projets. Donc on répond aux grands projets comme les nationaux peuvent le faire, sauf qu'on a moins de moyens tout seul, donc l'union fait la force, donc on se met à 6, et en fonction du projet, on se met à 2, 3 ou 4. Ça nous a fait gagner 500 logements à Voisins-le-Bretonneux en finale contre un national, et puis nous avons perdu en finale aussi contre Pichet-Legendre aux Jeux Olympiques à l'île Saint-Denis. Voilà. Bon, mais on était en finale.
Ce qui est bien, c'est une belle initiative.
Ah oui, c'était un très beau projet.
Et je ne peux pas me soustraire de parler du projet de loi de finances 2022, parce que généralement, quand on parle de projet de loi de finances, il y a souvent des aides qui sont associées, en tous les cas concernant le logement neuf. Est-ce qu'il y aurait des mesures que vous souhaiteriez voir renforcées ou nouvelles dans ce PLF 2022? Parce que bon, le premier jet, il n'y a pas grand-chose de ce point de vue-là, je trouve.
Vous me posez une colle. On peut avoir... Alors, il y a les aides aux maires bâtisseurs, bien
vrai.
Sûr. Moi je pense qu'il y a une... Pour aider les maires aussi à construire du logement et du logement social, je crois qu'il faut leur donner une plus grande importance dans le système d'attribution. Parce qu'ils ont, sur leur commune des gens qui travaillent, mais qui gagnent entre 800 et 1500 euros. Et ceux-là, ils ont besoin d'être logés prioritairement dans les logements sociaux. Et je crois que ce n'est pas toujours appliqué comme ça.
D'accord. Ça serait une mesure importante pour... Alors,
mais ça ne touche pas, évidemment, le plan de finances. Sur le plan de finances, non, je n'ai pas Pinel, pas Pinel, super Pinel, pas super Pinel. Il y a du bon, il y a des effets pervers. Aider la fiscalité pour les investisseurs, pourquoi pas. Mais ça fait augmenter les prix pour les primo-accédants. Enfin, c'est... J'ai toujours été assez réservé. Maintenant, si on supprime le Pinel, comme ils en parlent, fin 2022, il faut mettre en place un système qui permette aux investisseurs de gérer convenablement leurs locataires et puis de pouvoir avoir une rentabilité ou que le revenu foncier redevienne une partie du revenu global. Hein, avec les dépenses qui peuvent être déduites des revenus globaux. Je crois d'ailleurs que oui, Monsieur Dinin dans Les Échos en a parlé la semaine dernière.
D'accord. Bon, bah super. On arrive déjà à la fin de nos échanges. Merci pour ces échanges et pour votre regard sur la promotion immobilière. Et à très bientôt sur les antennes de Radio Immo.
Merci à vous et bon vent à Radio Immo.
Quoi de neuf dans l'IMO ?
radio-imo.fr.
Une émission présentée par Olivier Bureau, président de l'Institut des constructeurs et des promoteurs.
Radio Immo, l'information immobilière.